Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 14 septembre 2022. Jean-Roger Biot à ce micro, bonsoir à tous. Au sommaire du journal, soldats ivoiriens détenus au Mali, Abidjan dénonce un chantage inacceptable et appelle à un sommet ouest-africain. Au Burkina Faso, une pluie diluvienne tombée sur Bobo-Dioulasso et ses alentours a fait une dizaine de morts. Éthiopie, 10 morts dans deux frappes sur Mekele, la capitale du Tigré. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se renvoient mutuellement la responsabilité des agressions qui ont fait 150 morts. Le président chinois Xi Jinping est au Kazakhstan où il doit prendre part à un sommet régional avec son homologue russe Vladimir Poutine. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. La Côte d'Ivoire a qualifié ce mercredi de chantage inacceptable les exigences du Mali au sujet de ses 46 soldats ivoiriens détenus depuis 2 mois à Bamako et appelle à un sommet ouest-africain sur la question dans les meilleurs délais. Le point avec Ginny Niwa.
Le Conseil national de sécurité considère que ce chantage est inacceptable et exige la libération sans délai des 46 soldats, indique un communiqué de cette institution présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette demande malienne confirme une fois de plus le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais des otages, poursuit le texte. C'est la première réaction officielle depuis que la junte malienne, vendredi, avait conditionné la libération des soldats ivoiriens à l'extradition de personnalités maliennes vivant à Abidjan. La Côte d'Ivoire souhaite la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés au Mali, présentés comme des mercenaires, puis inculpés de tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et formellement écroués. Depuis septembre, 3 femmes soldats ont été libérées. Plusieurs médiations sont en cours, dont celle du président togolais, Faure Gnassingbé, et de leaders religieux maliens.
Le procès de l'agresseur présumé d'un chercheur guinéen de 31 ans tué en 2019 à Rouen, dans le nord de la France, après avoir été roué de coups, s'est ouvert devant la cour criminelle de Seine-Maritime malgré la schizophrénie de l'accusé, interné en hôpital psychiatrique dans une unité pour malades difficiles. Depuis son interpellation, l'homme âgé de 32 ans a reconnu les faits, le regard dans le vide depuis le box des accusés encadré par 2 soignants. La ville de Bobo-Dioulasso était dans les eaux du lundi au mardi. Une précipitation de plusieurs heures qui fait parler d'elle. On dénombre des morts et des dégâts matériels immenses. Le compte-rendu avec notre correspondant à Bobo-Dioulasso, Alédou Ouédraogo.
C'était une pluie torrentielle que la plupart des habitants de Bobo-Dioulasso disent n'avoir jamais vue. Des précipitations d'au moins 15 heures d'horloge de 18 heures le soir à 10 heures le matin. Plusieurs marigots débordés, des quartiers entiers inondés, des cultures dévastées ont été les premiers constats. Au plan humain, on dénombre au moins une dizaine de morts, dont 6 emportés par les eaux, d'autres par l'écroulement des maisons. Les dégâts matériels dus à cette pluie hors norme sont innombrables, d'autant plus que dans les quartiers périphériques, plusieurs personnes sont à présent sans abri. Il est aussi à noter que la ville a été plongée dans le noir pendant des heures avant que l'électricité ne soit rétablie. Pour finir, je précise que jusqu'à présent, certaines zones autour de Bobo-Dioulasso sont inaccessibles. Alidou Ouédraogo, Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique.
Toujours au Burkina Faso, 2 responsables de la mine de Perkoa ont été condamnés à des peines de prison avec sursis pour homicide involontaire après la mort de 8 mineurs en avril dernier dans l'inondation des galeries de cette mine de zinc. Selon le parquet, la modification de la fosse ayant occasionné l'abattage des piliers de sécurité et le manque d'un système d'alerte précoce en cas d'inondation n'ont pas permis aux mineurs piégés de remonter rapidement. En surface. En Éthiopie, 10 personnes ont été tuées, 14 blessées ce mercredi par 2 frappes aériennes sur Mekele, la capitale du Tigré. Les rebelles tigréens ont dit qu'il y a quelques jours, être ouverts à des négociations avec le gouvernement éthiopien. Nani Talani.
2 attaques de drones ont frappé un quartier de Mekele, la capitale du Tigré, tuant plus de 10 personnes et blessant plus d'une douzaine d'autres, ont déclaré 2 responsables du plus grand hôpital de la région. Les raids aériens font suite à l'annonce dimanche faite par les autorités tigriennes qu'elles étaient prêtes à des pourparlers sous l'égide de l'Union africaine. Selon les rebelles tigriens, il s'agit de la deuxième salve de frappes éthiopiennes sur Mekele en 2 jours. Le Front de libération du peuple du Tigré a accusé aussi mardi le gouvernement fédéral d'avoir bombardé avec un drone l'université de Mekele. Le gouvernement éthiopien, qui n'a pas répondu à ces accusations, a toujours assuré ne viser que des cibles militaires et accuse le TPLF de mettre en scène des morts de civils. Addis Abeba n'a pas réagi non plus à l'annonce du TPLF de négocier un cessez-le-feu.
Le président mozambicain a estimé aujourd'hui pertinent de prévoir une reprise de l'activité sur les futurs sites de production de gaz naturel dans le nord-est du pays. Les attaques par des groupes armés dans la province pauvre mais riche en gaz du Cabo Delgado, à majorité musulmane, ont fait près de 4000 morts depuis octobre 2017. Selon l'ONG Acled, les violences ont aussi provoqué la fuite de 820 000 personnes. La compagnie comorienne Yemenia Airways a été condamnée aujourd'hui à Paris à 225 000 euros d'amende pour homicide et blessure involontaire après le crash en 2009 d'un avion au large de Comores qui a coûté la vie à 152 personnes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de nouvelles attaques à leurs frontières. Cette flambée de violence depuis mardi a fait plus de 150 morts, dont 105 militaires arméniens, selon un nouveau bilan communiqué par le premier ministre arménien Nikol Pachinian. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le ministère arménien de la Défense affirme que Bakou a repris ce mercredi ses attaques avec de l'artillerie, des mortiers et des armes de gros calibre dans les directions de Germouk, Verin, Chorgza, deux localités arméniennes près de la frontière. Pour sa part, le ministère azerbaïdjanais de la Défense soutient que les forces arméniennes ont bombardé pendant la nuit leur position dans les zones de Kelbajar et Latchin. Le porte-parole de l'armée arménienne Arom Tourosian nie ces accusations. La Russie a annoncé une trêve depuis hier mardi matin, mais les deux camps se sont aussitôt accusés de l'avoir violée. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux ex-républiques soviétiques rivales, se disputent le contrôle de la région de Nagorno-Karabakh. Moscou a déployé en novembre 2020 des soldats de la paix dans cette région, mais depuis son offensive en Ukraine, son rôle de médiateur est remis en cause. L'Union européenne, les États-Unis, la France, la Russie, l'Iran et la Turquie appellent à la fin des violences.
Le président chinois Xi Jinping est au Kazakhstan ce mercredi pour sa première visite à l'étranger depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il doit participer à un sommet régional avec son homologue russe Vladimir Poutine pour approfondir leur alliance face aux Occidentaux. Abdourahman Dia.
Xi Jinping a été accueilli par le président kazakh Kassym Jomart Tokayev. Ils ont ensuite eu une rencontre bilatérale au palais présidentiel. À la veille de ce déplacement, le dirigeant chinois a promis de défendre la sécurité commune avec le Kazakhstan. Xi Jinping se rendra ensuite en Ouzbékistan pour un sommet des dirigeants des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, composée de la Chine, de la Russie, de 4 pays d'Asie centrale, de l'Inde et du Pakistan. Le Kazakhstan et l'Ouzbékistan sont 2 pays de l'Asie centrale de l'ex-Union soviétique, région au cœur des nouvelles routes de la soie, ce vaste projet voulu par le président chinois pour améliorer les relations commerciales de la Chine avec le reste du monde. La Russie a indiqué qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping se tiendrait en marge du sommet. Moscou, frappé par des sanctions occidentales suite à l'invasion de l'Ukraine, cherche à renforcer ses liens avec Pékin.
Vladimir Poutine ne considère pas la guerre en Ukraine comme une erreur, a affirmé aujourd'hui le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'une conférence de presse où il était questionné sur son entretien la veille avec le président russe. Mardi, Olaf Scholz avait exhorté Vladimir Poutine à ordonner le retrait complet hors d'Ukraine des forces russes en difficulté face à une contre-offensive de l'Ukraine. Le président américain Joe Biden s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec le roi Charles III. Lui a transmis ses condoléances pour le décès de la reine Elisabeth II et a fait part de son désir de poursuivre une relation étroite avec le nouveau souverain a annoncé la Maison-Blanche. Il s'agit de la première conversation rapportée entre Joe Biden et le nouveau roi. Le locataire de la Maison-Blanche assistera en personne aux funérailles de la monarque lundi à Londres. Cela dit, le public a commencé à se recueillir devant le cercueil de la reine à Londres, dans la plus vieille salle du Parlement de Westminster, qui restera ouverte jusqu'aux obsèques lundi, après avoir quitté le palais de Buckingham sur un affût de canons tirés par des chevaux. Le cercueil de la souveraine, qui s'est éteinte jeudi dernier à 96 ans, reposera dans la plus vieille salle du Parlement britannique sur un catafalque exposé jusqu'aux obsèques d'État. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le cumul des transferts nets d'argent reçus par les établissements de crédit au Sénégal a enregistré une baisse de 5 milliards de francs CFA au premier semestre par rapport à la même période l'an dernier. Ces transferts se sont établis à 696,3 milliards de francs CFA contre 701,3 milliards de francs CFA au premier semestre 2020. Le premier forum économique Togo-Tunisie à Lomé prend fin aujourd'hui. La rencontre était organisée par le ministère de la Promotion de l'Investissement, la Chambre de Commerce et d'Industrie et le Tunisia Africa Business Council. Les échanges ont permis à plusieurs entreprises de s'informer sur les opportunités d'investissement au Togo. Il est attendu du secteur privé une participation de 50% du financement des projets de la feuille de route gouvernementale 2025 sur un total de 3 400 milliards de francs CFA. Dernier jour également du premier salon mondial des infrastructures, équipements et services aéroportuaires à Kigali, après 3 journées d'activité dans la capitale rwandaise. Les autorités de l'aviation civile de plusieurs pays ont fait le déplacement pour partager leurs expériences en vue de promouvoir l'activité aéroportuaire.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Youssef Msakni s'est blessé.
Oui, l'attaquant et capitaine de l'équipe nationale tunisienne s'est blessé mardi au genou avec son club Al Arabi en championnat du Qatar. Mais plus de peur que de mal, Youssef Msakni ne souffre d'aucune lésion au niveau des ligaments croisés, affirme la Fédération tunisienne de football. Le joueur a subi ce mercredi dans une clinique privée de Tunis des examens médicaux. Cette annonce devrait rassurer les fans tunisiens qui craignaient une absence du capitaine des Aigles de Carthage à la Coupe du Monde au Qatar prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain. Auteur de 17 buts en 84 sélections, Youssef Msakni avait déjà manqué le Mondial en 2018 en raison d'une blessure au genou.
Suite des matchs de la deuxième journée en Ligue des Champions ce soir en Europe.
La Juventus Turin joue déjà gros ce mercredi contre le Benfica. Après sa défaite d'entrée contre le PSG la semaine dernière, justement le PSG devra se méfier des Israéliens de Maccabi Haïfa, recrue phare de Manchester City après 2 saisons et demie à Dortmund. Erling Haaland accueille sans état d'âme son ancien club du Borussia. Chelsea du nouveau coach Graham Potter joue face au Red Bull Salzbourg. Le Real Madrid accueille le RB Leipzig.
Affaire Pogba, le frère Mathias Pogba et 3 autres personnes en garde à vue.
Mathias Pogba, le frère aîné du footballeur français Paul Pogba, et 3 autres personnes ont été placées en garde à vue en France dans l'enquête sur des extorsions dénoncées par le joueur de la Juventus Turin. C'est ce qu'indiquent des sources judiciaires et proches du dossier. Mathias Pogba s'est présenté de lui-même en début d'après-midi au service d'enquête et a été placé en garde à vue, a précisé la source proche du dossier. Paul Pogba est au centre d'une rocambolesque affaire liée à une tentative d'extorsion présumée à son encontre. La mère du joueur et son agente, Rafaela Pimenta, dénoncent des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée visant la star. Paul affirme avoir reconnu son frère aîné, Mathias, à l'origine d'une vidéo où il avait promis de grandes révélations sur lui.
Basketball, le propriétaire des Suns de Phoenix est suspendu.
La NBA, Ligue nord-américaine de basketball, dit avoir suspendu 1 an Robert Sarver, propriétaire des Suns de Phoenix, et lui avoir infligé une amende de $10 millions pour comportement raciste et misogyne. Conséquence, il ne peut plus diriger de franchise et il lui est interdit d'assister à des rencontres comme de fréquenter les installations des équipes de la NBA et de la WNBA. Le propriétaire des Suns était sous le coup d'une enquête depuis la publication d'un article d'ESPN auprès de plus de 70 employés des Suns lui reprochant son comportement inapproprié. Selon le rapport, Robert Sarver a, entre autres, dit à une de ses employées enceintes qu'elle ne pourrait plus faire son travail correctement si elle devenait mère.
Page de sport VO Afrique, signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le conflit interethnique opposant les Yaka et les Teke se poursuit dans le territoire de Kwamtout, dans le Maïndombe, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Hier, plus d'une trentaine de personnes ont été tuées dans le village de Fadiaka. Depuis fin juillet, le nombre de morts dépasse les 70, selon les députés de la province du Maïndombe. Eddie Sango a joint à Kinshasa le député Guy Moussomo.
Il y a eu deux morts. Ce sont des assaillants munis d'armes à feu, donc le calibre 12 comme on appelle ici, des flèches. Ils sont entrés dans un village Fadiaka hier à vers 6 heures et ils sont arrivés d'abord dans la cour Chefal. Ils ont tué le chef et sa femme, plus ses arrières petits. Et puis ils ont brûlé pratiquement tous les villages. Les autres ont fui dans les territoires d'à côté, dans les territoires de Bagata, par nage, hein, en traversant la rivière Kwango. Donc, mais on nous dit, même la population elle-même, par rapport à son témoignage, il y a eu beaucoup de morts. Certains parlent de 35, de 70, de 100. Donc, ça dépend d'une personne à une autre.
Qu'est-ce qui s'affronte exactement? On parle des deux ethnies ou des tribus qui s'affrontent là-bas?
Il y a une tribu qui a des armes, puisque j'ai été à Kwamutu, j'ai entendu ce que la population a dit devant le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que ce sont des Yaka qui ont pris des armes pour tuer les Teke. Aujourd'hui, là, ça peut se confirmer parce que il y a une délégation chefale conduite par le chef Monikongo, un autre de Matadi Kibala. Ils sont arrivés vers Machambio, c'est-à-dire à 125 km de Kwamutu, et on a arrêté quelques assaillants avec des armes à feu, y compris des armes militaires, des flèches et des arcs, et un bon nombre de machettes, on estime au nombre de 100. Tous ceux-là qu'on a arrêtés, ils sont tous catégorisés comme des Yaka. Donc, jusque-là, du côté Teke, on n'a encore arrêté personne qui porte des armes.
Est-ce qu'on connaît la raison de ces affrontements?
Au début, comme la situation qu'on a connue, c'était dans un seul groupement, le groupement de Bateke Sud, on a cru d'abord que c'était vraiment un problème de redevance. Parce que le peuple Yaka disait que les chefs coutumiers de là demandaient les redevances trop chères. Après, la situation a commencé à évoluer parce que ces assaillants-là, ils sont organisés dans des groupes. Il y a des groupes qui sont à l'est, il y a des groupes qui sont au sud, au centre. Peut-être qu'ils peuvent avoir des mots de passe. Chaque fois qu'il y a une situation, par exemple à l'est, on attend un moment et ça doit se déclencher au sud. Ce sont des groupes éparpillés comme ça qu'on ne sait pas tout à fait bien déterminer. Là, il y a des services de sécurité qui devaient faire le travail.
Vous parlez de sécurité, mais ça fait déjà depuis juillet que ces affrontements interethniques ont commencé. Nous avons appris que le gouvernement central a envoyé par deux reprises des militaires. Mais quelle est la situation?
Du côté là où les militaires se trouvent, il y a quand même une certaine accalmie. Mais du côté qu'on appelle RN17, c'est-à-dire la route de Mongata jusqu'à Bandunduville, c'est là où il y a des problèmes. Parce que ces assaillants-là ont érigé des barrières, les véhicules ne passent pas. C'est cette route-là qui ravitaille Kinshasa et qui ravitaille aussi la ville de Bandundu dans la province du Kwilu.
Guy Moussomo, député de la province de Maïndombe en République démocratique du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les perturbations de l'approvisionnement alimentaire causées par la guerre en Ukraine ont aggravé les luttes pour la survie de millions d'Africains, d'après les associations d'agriculteurs de 11 pays d'Afrique centrale réunis à Yaoundé. Ces agriculteurs appellent les gouvernements à aider les populations à faire face aux pénuries alimentaires. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, rendu par Nani Talani.
Des représentants de plus de 60 associations d'agriculteurs se sont réunis mardi à Yaoundé. Ils ont demandé au gouvernement de 11 pays d'Afrique centrale d'investir dans l'agriculture et de réduire la dépendance aux importations alimentaires. Selon ces agriculteurs, la pénurie et les prix élevés réduisent l'accès à la nourriture pour la plupart des ménages. Nadine Bala, coordinatrice de l'Union des agriculteurs du Gabon.
Nous avons besoin que les gouvernements en Afrique centrale nous donnent des moyens, des ressources pour que nous puissions produire une bonne qualité, une bonne quantité de semences, car nous n'avons pas suffisamment de semences pour avoir la souveraineté alimentaire. Nous devons, à travers cette conférence, sensibiliser nos gouvernements. S'ils donnent des moyens, renforcent les capacités des agriculteurs, donnent des ressources, les organisations d'agriculteurs sont très disposées à résoudre l'insécurité alimentaire et la crise alimentaire.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a perturbé les exportations de vivres des deux pays, privant les États d'Afrique centrale de plus de 55% de leur blé. Drumteng Tukul, coordinateur de la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale, déclare que si les gouvernements investissent dans l'agriculture, qui, selon lui, est capable de fournir 80% de la nourriture aux populations, les pénuries alimentaires et les flambées des prix ne seront plus un problème majeur.
Ce que nous attendons des chefs d'État africains, c'est que dans les réglementations qui sont prises, il faudrait qu'on tienne compte de la spécificité des semences paysannes. Parce que ces semences sont à la base de l'agriculture familiale. Et l'agriculture familiale produit pratiquement 80% de la nourriture que nous mangeons dans nos différents pays. Et cette agriculture est soutenue par les semences paysannes. Et c'est à partir de cette semence que nous pensons que nous pouvons arriver à la souveraineté alimentaire. Si les semences doivent toujours nous venir de l'extérieur, ce sera difficile pour nous d'atteindre la souveraineté alimentaire.
L'ONU note que les conflits, les chocs climatiques, les inondations et les sécheresses contribuent aussi à la crise alimentaire en Afrique centrale.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le dialogue national inclusif et la tension politique au Tchad. Alors que ce forum a du mal à progresser, l'Église catholique a annoncé qu'elle suspendait sa participation. Pendant ce temps, le bras de fer se poursuit entre le pouvoir et le parti Les Transformateurs qui a boycotté le dialogue national. Plusieurs membres de cette formation politique sont arrêtés, mais la convocation de son leader, Succès Masra, a été suspendue par la justice. Que faut-il attendre de ce dialogue national au Tchad et comment interpréter la tension politique dans ce contexte? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
La boucle du Moun est la plus grande région du Burkina Faso avec 6 provinces. Elle est aussi par excellence la région la plus agricole du pays avec une production céréalière d'au moins 1 million de tonnes par an. Depuis maintenant un an, cette partie appelée le grenier du Burkina est complètement tombée entre les mains des groupes armés. Conséquence, on craint une insécurité alimentaire dans le pays. Le reportage d'Alidou Ouedraogo à Bobo Dioulasso.
Bien, en ce qui concerne la production céréalière dans la boucle du Moun, et plus particulièrement au Burkina Faso, elle serait très difficile pour cette campagne. Compte tenu de ce que nous connaissons avec l'installation des djihadistes dans beaucoup de régions de notre pays, qui ont chassé les paysans de leurs exploitations.
C'est en ces termes que Bassia Kadao, le président de la Confédération paysanne du Burkina, donne d'autres raisons qui compliquent la situation.
Au-delà des djihadistes, vous avez la cherté des intrants agricoles qui sont partis du simple au triple. Le sac d'engrais qui coûtait entre 15 000 à 16 500 est parti entre 35 000 et 37 000 dans certaines régions qui ne sont pas à la portée des petits producteurs.
Obligé de partir un beau matin en laissant tout derrière soi, Ibrahim Souri avait une exploitation de 13 hectares à Kouleri. Il a trouvé refuge avec sa famille de 13 personnes à Nouna, à une centaine de kilomètres au sud.
Nous avons quitté nos terres pour nous réfugier ici. On croyait qu'on y retournerait aussi rapidement. Nous sommes en plein hivernage et c'est bien fini pour cette saison. Il faut que l'État fasse tout pour qu'on y retourne rapidement.
Mamadou Sanogo, un autre producteur, témoigne.
L'agriculture est tout pour nous. S'il n'y a pas ça, c'est grave. Si nous n'arrivons plus à cultiver, nous serons obligés de quitter le pays pour d'autres horizons.
Dans les centres urbains, le sac de maïs de 100 kilos jadis à 12 000 francs CFA s'est négocié hors de prix.
Le sac de maïs, il faut aller jusqu'à quelque chose de 30 000 francs pour avoir un sac de maïs. L'insécurité alimentaire là était inévitable. Et la boucle du monde étant le grenier même du Burkina, il y a pas mal de zones où les gens ont quitté.
Bassia Kadao, le président de la Confédération paysanne, donne des pistes de solutions.
Avec la maîtrise des eaux, dans certains bas-fonds et au bord de certains retenues, avec ceux qui ont des forages à grand débit agricole pour pouvoir combler les gaps de ce que nous faisons. Et l'autre aspect, c'est de changer nos régimes alimentaires, en utilisant beaucoup de légumes, de ne pas rester uniquement que sur les céréales. Cette année-là, nous avons fixé des objectifs d'atteindre au moins 6 millions de tonnes, mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir atteindre au moins les 6 millions de tonnes.
Ali Douedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
La mort de la reine Elisabeth II a suscité une avalanche de réactions en Afrique. Au Kenya, l'on se souvient de sa visite en 1952, mais le décès de la monarque a également ravivé un débat sur le passé colonial qui a laissé des blessures ouvertes. Le point avec Djuma Mbajanga depuis Nairobi, le récit est de Mouamadou Mfa.
C'est lors d'une visite au Kenya qu'elle a appris le décès de son père, le roi George VI, devenant ainsi la nouvelle reine. Son accession au trône est intervenue alors que les colonies africaines réclamaient leur indépendance. La reine Elisabeth II devait superviser le processus de décolonisation dans l'empire colonial britannique. Macharia Munene, professeur d'université.
Elle a pu s'adapter à la réalité du déclin impérial, puis transformer ce déclin en une meilleure chose, quelque chose de commun dont les gens peuvent faire partie, c'est-à-dire le Commonwealth.
Pour certains Africains, la domination coloniale britannique est synonyme d'exploitation. Ils condamnent la reine, représentante des intérêts britanniques, pour les atrocités de cette période. Gituwa Kahengiri, vétéran de l'association des survivants de la révolte des Momo.
Personnellement, je n'oublierai pas que j'ai été incarcéré pendant 7 ans. Je ne peux pas oublier que j'ai été mis avec mon père. Je ne peux pas oublier que j'ai laissé mes enfants pendant 7 ans sans nourriture, sans éducation. Ça, je ne l'oublierai jamais.
Mais avec la disparition progressive du colonialisme, les mauvais souvenirs de la domination britannique en Afrique s'estompent. Macharia Munene.
Elle signifiait beaucoup pour bon nombre de gens. Pour les sujets coloniaux à l'époque, elle était le symbole du mal qui était le colonialisme. Avec l'indépendance, elle a pu se transformer en une personne sympathique. Et en tant que personne, elle était sympathique.
La reine Elisabeth était largement admirée et considérée comme un modèle par de nombreuses personnes sur le continent. C'est en tout cas l'avis de plusieurs Africains.
L'héritage qu'elle a laissé restera profondément enraciné dans le cœur des générations à venir.
Pour moi, c'est juste triste. Je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est triste pour beaucoup de gens dans le monde entier et surtout pour l'Angleterre.
Je n'ai jamais connu d'autre dirigeant qui a duré aussi longtemps. Donc que cela se produise maintenant signifie que chaque homme a une fin.
Les analystes pensent que le plus grand héritage de la reine Elisabeth est la création du Commonwealth. Après sa mort, il revient désormais au nouveau roi, Charles III, de le perpétuer.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
I should be scared of you.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billot à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.